Donc, on va faire le début. Voici donc les toldot d'Yitzhak, le fils d'Abraham. Et on dit, les toldot, les voilà. Abraham holid et Yitzhak. Comme toldot d'Yitzhak, on dit qu'Abraham a mis au monde Yitzhak. Alors, Anne, sur place. Le rabbin sur place dit ici, Vele toldot Yitzhak, ben Abraham. Alors, a priori, ça. Donc, a priori, on parle des toldot de Yitzhak, c'est. C'est Yaakov et Esav qui vont être mentionnés plus bas. Merci. Alors maintenant, pourquoi Chazar, Lachen Chazar Veishlim, pourquoi le verset continue, revient et dit Avraham holid et Yitzhak? C'est pour dire qui hu levado toldotav. C'est pour dire que Yitzhak est le seul toldat d'Abraham. Ou keilu lo lid acher yichashev. Et comme si Abraham n'avait pas eu d'autres enfants. Mais c'est en fait ce qui avait été annoncé à Abraham, où Hachem lui a dit qui be Yitzhak ikare le chazara. C'est Yitzhak qui sera ta descendance, sous-entendu, et pas Ishmael. Donc ça vient dire ici que Ishmael n'est pas à rapporter à Abraham, parce que Ishmael n'est pas le fils d'Abraham. Ishmaël est le fils d'Avram. Il est le fils il est son fils avant qu'il change de nom. Avraham, en tant que patriarche, il n'est patriarche que du clan Israël, donc son descendant, c'est Yitzhak. Donc on dit simplement, il est Yitzhak ben Avraham, et ne crois pas que Yitzhak ben Avraham et Ishmaël aussi ben Avraham. On va tout de suite voir. Avraham holid et Yitzhak. Point barre. Et Rashi, sur Avraham holid et Yitzhak, Rashi dit, le fils a eu le tzané ador. Rashi dit, parce que les plaisantins dans cette génération, les moqueurs, disaient, mais Avimelech n'est pas Sarah. Que Sarah est enceinte, mais elle est enceinte d'Avimelech. Et c'est très étonnant. Parce que ça veut dire qu'on peut aussi se moquer d'Abraham. Et en plus, Akadosh Baruch Hu a tenu compte de cela, puisque Hachem, on dit qu'Hachem. Qu'Hachem a tsar klaster panav shel Yitzhak domé l'Abraham. Qu'Hachem a fait en sorte que le visage d'Yitzhak soit une copie de celui d'Abraham. Donc on a l'impression que qu'Hachem tient compte des latsanador, quoi. Hachem tient compte des moqueurs et il leur répond. Mais en réalité, le fait qu'Hachem ait dessiné le visage de Yitzhak comme celui de son père, c'est la continuation du miracle de la naissance d'Yitzhak à Avraham lorsqu'Avraham était un vieillard. Parce qu'il faut que quand il y a un nes, le nes doit se faire de façon totalement visible en quelque sorte. Donc une partie du nes, c'est qu'il soit clairement visible que Yitzhak est l'enfant d'Abraham.
Je vois pas la pole d'âme d'Isaac là.
De quoi? Ça va venir plus bas. Rashi va expliquer, commentateur, que les toldot, ce sera Yaakov et Avraham à Amourim, Yaakov et Esav à Amourim à Paracha. Ils sont présentés dans la Paracha et on les voit juste un peu plus bas. Mais là, ce qui était important, c'est de préciser que Yitzhak ben Avraham. Maintenant, Rashi, lui, il amène même cette idée que il faut, c'est pas qu'il faut répondre aux plaisantins, c'est que il faut pas qu'il puisse y avoir cette plaisanterie, et pour qu'il n'y ait pas, parce que sinon, ça, c'est comme si le nes n'était pas complet. Voilà, Sarah a eu un enfant, mais enfin, c'est pas clair que l'enfant est d'Abraham. On peut dire il est d'Avimelech, juste avant la naissance. Elle était prisonnière de David Meller, donc il a pu en abuser, et elle est enceinte de David Meller. Pour que la naissance d'Yitzhak comme héritier d'Abraham, lorsqu'Abraham est un vieillard, il fallait que le visage d'Yitzhak soit la copie conforme de celui d'Abraham.
Et oui, vous avez vu que c'est surprenant que la première génération de Noé, c'était Noé, parce que la postérité de Noé, c'était Noé. Et là, c'est le père. Pourquoi on n'a pas le même pattern.
Parce qu'ici, on n'a pas dit El Etodot Yitzhak Ben Avraham Yitzhak. Comme dans Noach.
Mais on dit Abraham.
Non, oui, mais on dit pas Abraham. On dit Avraham Olid et Yitzhak. Il y a un verbe. Là-bas, il n'y avait pas de verbe. Noach ish tzadik aya, ça veut dire Noach était un tzadik, donc on dit, voilà, c'est lui la postérité, c'est Noach. Ish tzadik aya, il était un tzadik, on commence à raconter sa vie. Et quand on dit que les moqueurs disaient que il était l'enfant d'Avimelech, ça vient dire ici une chose importante, c'est que tout ce qui existe du côté de la Kedusha existe aussi du côté de la Touma. De même qu'il y a ce qu'on appelle la Merkava, le chariot divin, le support de la présence divine dans le monde, il y a aussi une Merkava, un support de la présence du mal, de l'impureté dans le monde. Il y a des grands dans la Torah, chaque génération. Il faut aussi qu'il y ait des grands dans le mal, parce que si vous voulez, tout ça c'est pour la prira, pour que le choix soit équilibré, pour qu'on ait à choisir réellement. Parce que si par exemple les gens, les grands sont obligatoirement du côté de la Torah, on dit bon, c'est la Torah qui a raison. Mais si le mal, du côté du mal, il y a aussi des grands personnages, et ça c'est ce qu'on appelle l'Etzané Ador. Sans ça, il n'y a pas de Bechira, il n'y a pas de choix possible. Parce que le Maharal dit, Shedatan et Aviram ayu tzadatuma keneged Moshe et Aaron, bedor Amidbar. Comme ça vous a sûrement frappé, durant toute l'histoire du clan d'Israël, depuis l'Égypte, jusque toute l'histoire, toutes les tribulations d'Ebné Israël, il y a cette bande de crapules, là, Datan et Aviram, qui sortent d'Égypte, qui font des tsarotes, on les a tous les. Ils sont dans tous les mauvais coups, ils sont tout le temps là. Comment ça se fait qu'ils sont sortis d'Égypte, ceux-là? Pourquoi ils ont traversé la mer? Pourquoi il ne leur arrive rien? C'est que s'il n'y a pas, mais y compris dans le clan d'Israël, et c'était des. Tatan Aviram, c'était des grands personnages, c'était pas des petits. Je sais pas, c'était pas les amuseurs publics, c'était des grands, des gens qui venaient avec des arguments, qui faisaient école, etc. Le yesod de la prira, c'est qu'il doit y avoir du tov et du ra, zé le umat zé, un en face de l'autre. Ensuite, on nous, dans les toldot, on dit voilà, Yitzhak, vahi Yitzhak ben arbaim shana, le karto et rivka bat betuel arami, palan aram achot levan arami lo leisha. Il a 40 ans. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors Rashi dit, il explique les 40 ans pour faire le décompte. Il avait 37 ans à la Hakeda, il explique 3 ans, la différence. Et puis le descriptif de Rivka, tout, pourquoi on l'a dit, on la présente ici que Bat Betuel Arami, Mipadan Aram, Achot Laban Arami Lolisha. On sait tout ça, on l'a raconté déjà dans la paracha précédente. Donc pourquoi est-ce qu'on nous raconte encore une fois tout ça? C'est parce que ça fait partie justement de la vie, des productions de Yitzhak, il a vécu comme ça, il a vécu dans cet environnement, dans un environnement où il n'y a pas de possibilité pour quelqu'un qui est le fils d'Abraham Avinu de trouver une épouse avant 40 ans. Ça dure, c'est trop long, mais il n'y a pas de fille. Et où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller chercher la fille de Betuel, la sœur de Lavan, des Araméens, parce qu'il n'y a pas, il ne peut pas prendre des Cananéennes, donc il faut aller chercher des Araméennes. Alors Rashi dit, Bat Betuel Arami, Panan Aram, Achot Lavan. Alors Rashi dit, Vechi Adayen Lo Nechtav, Shei Bat Betuel, Achot Lavan, Panan Aram. Ça n'a pas déjà été écrit? Bien sûr que c'est déjà été écrit. Qu'est-ce qu'elle me fait? La Torah, elle me répète quelque chose ici qui a déjà été écrit plus haut. Et là, Lehagid Shvacha, Sheaita Bat Rasha, Achot Rasha, Mekoma, Anshe Resha, Velo Nimdami Maser. On est en train de dire, de faire l'éloge de Rivka. Elle est une fille de Racha, une sœur de Racha, elle vit à un endroit où les gens sont de Rachaïm, et elle n'a rien appris d'eux, c'est-à-dire, elle a réussi à sortir son épingle du jeu, en quelque sorte. Elle est intouchée par tout ça. On voit ici que c'est marqué Lo lamda mima aseyem. Elle n'a pas appris de leurs actions, des actions de ces rechaïm. On voit que apprendre, c'est pas seulement apprendre à partir d'un livre ou à partir d'un enseignement ex cathedra ou un truc comme ça. On apprend bien sûr par imitation. Elle était dans un milieu où l'imitation l'aurait porté. Les enfants, ils imitent. Elle aurait dû imiter, elle aurait été dure. La normale, c'était qu'elle imite son père, son frère, les gens de l'endroit, et qu'elle soit influencée par l'endroit où elle est née, où elle a vécu.
Pardon?
4
ans, c'est pas assez pour imiter tout ça.
Pas tout ça, mais à 3 ans, elle en prend déjà des. Visiblement, tu vas voir que c'est une fille qui, à 3 ans, elle a des réactions de. Quelqu'un de plus âgé déjà, en tout cas. Donc, il y avait de quoi apprendre et c'est pas. Les mauvaises midotes, on les apprend tout de suite. L'enfant, il copie tout de suite les mauvaises choses à toute vitesse. Dans la fila de Ahavarabba, avant Kriyat Shema, on prie, on dit Beten Belibeinu Lehavin, mets dans notre cœur que nous sommes capables de comprendre la skill de représenter les choses, sechel, lishmoa, etc., d'écouter, l'inmod, d'apprendre. Croiser, a priori, ça, c'est pas dans l'ordre. On devrait dire d'abord le limoud, לשמוע, ללמוד, וללמוד זה די אחרי להבין ולהשכיל. Normalement, on devrait d'abord apprendre et après comprendre. Donc, l'imoud ici ne peut pas vouloir dire ce qu'on devrait mettre évidemment avant la vinoulaskil. Il y a un. Si vous voulez, on n'a pas besoin d'en parler de ce limoud-là. Le limoud, c'est comment traduire la sagesse en action. C'est ça qu'on veut dire dans l'ilmod. L'ilmod, un ilmod qui vient après la avinu l'askil lishmoa, c'est maintenant comment on va traduire l'ilmod, apprendre à traduire en acte ce qu'on a compris, ce à quoi on a eu accès. Et Bémet, c'est comme ça aussi. En fait, tant qu'on n'a pas appris, en fait, et qu'on ne copie pas d'une certaine manière instinctive, on n'a pas vraiment encore appris. Le limoud, il va se mesurer d'après les actions. D'après les actions de l'homme, on va savoir de qui il s'inspire, qui est-ce qu'il copie, qui est son maître. Que celui dont on apprend, on le copie. On copie même ses tics, ses habitudes, etc. J'ai raconté que quand j'étais à l'Institut de mathématiques, il y avait quelques stars, professeurs stars, et nous, jeunes derrière, on copiait complètement, c'est-à-dire tout le monde fumait la même chose que les professeurs Star. Il y avait une seule odeur de tabac dans tout l'institut. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait deux professeurs Star qui fumaient la même chose, et nous on a tous copié. Tout le monde fumait la même chose. C'est une copie. Ça. Il y avait des gens qui s'habillaient comme eux, il y avait des gens qui parlaient comme eux. C'est difficile, il parlait de texan, c'est difficile à imiter. Un enfant, il apprend à parler en imitant sa mère et les gens qui sont autour de lui. Il babille, il essaye toutes les combinaisons, mais après il copie les mots. J'ai entendu un bon mot de petite fille. Il a 5 ans. Et sa mère, elle a dit à son frère, il est rentré Erev Shabbat assez tard, il est allé à un chiour et elle ne le savait pas. Alors elle lui a dit qu'elle était doeguet, elle lui a dit, je m'étais fait du souci. Alors la petite, elle est venue, elle a dit à l'oreille de sa mère, Ima, altidagi, la Torah shomer et alaf. Maman, ne fais pas de souci, la Torah, elle le protège. Bourrage de crâne. C'est pour ça qu'on apprend à parler. Quand quelqu'un, un bahour dans une yeshiva, il devient indépendant, il apprend d'abord, il écoute des shiurim, ensuite il essaye de copier le derech halimud de son maître, la façon d'enseigner ou d'étudier de son maître. Il copie aussi certaines attitudes, certaines façons de parler. Un enfant, il regarde sur ses parents comment on doit se conduire dans telle ou telle situation. Et le shevach de la louange qui est faite ici de Rivka, c'est bien qu'elle ait été dans un environnement où tout, depuis son père, son frère, les gens autour, ils étaient tous pourris, et elle a réussi à ne pas être influencée. C'est un peu difficile à comprendre comment une petite fille de 3 ans, c'est l'âge où on copie, on ne fait que ça, à cet âge-là. comment elle avait, semble-t-il, des forces d'âme telles qu'elle a pu ne pas apprendre. Ça veut dire que non seulement elle a su trier, elle a su qu'il ne fallait pas apprendre, quoi. On est obligé de dire que elle avait ça dans l'inné, quoi. Du coup, c'est pas un travail, elle ne pouvait pas faire encore un travail. Et de façon innée, elle a senti que c'est pas ça qu'il faut copier. Il faut s'éloigner de ça. On le voit très bien que quand, vous vous souvenez, quand Eliezer a demandé, les parents, ils étaient sûrs que c'est une petite fille, elle ne suivra jamais Eliezer. Il lui dit, on va demander à la petite fille si elle veut te suivre. Chazal dit, enfin, toi, elle dit qu'elle a dit, oui, j'irai. Chazal dit, je j'irai même si vous n'êtes pas d'accord. C'est la révolte complète. Et elle part, elle quitte la maison. Alors ensuite, voilà, on nous parle de Rivka. Et tout de suite, bon, c'est très pointu. Donc, il l'a épousée. Et puis ensuite, Vayetar Yitzhak Lachem Lenor Hafishto, qui a Karahi, Vayater Lo Hashem Rivka Ishto. Tous les deux prient. Et Akadosh Baruch Hu écoute la prière d'Yitzhak. Et Rivka est enceinte. Rivka, sa femme, est enceinte. Ah non? Non, si personne ne dit que c'était à 3 ans. La Torah, elle n'est pas. C'est pas un. Ça n'est pas une chronologie complète de la vie d'Yitzhak. C'est des moments importants dans leur vie. C'est pas marqué à 3 ans. Oui, quand il l'a prise. Il a donné les kiddushin, elle avait 3 ans. Il peut donner les kiddushin à la fille de 3 ans. Ah ben, il s'est marié avec elle quand il pouvait se marier avec elle. Pardon? Oui, alors il y en a qui disent que c'était. Il y en a qui disent 20 ans, il y a toutes sortes de commentaires qui disent que le mariage a été formé à un âge plus ou moins normal, d'après ce qu'on dit. Vayetar, donc le Rashi rapporte Vayetar, Arbe, Vivtsir Batfila. Irba, Vivtsir Batfila. C'est-à-dire, Rashi dit qu'il a beaucoup prié. Rashi a énormément prié. C'est un malheur, c'est une façon de décrire la prière. Dans le Midrash, on dit qu'il y a 10 expressions qui indiquent la tfila. Ça veut dire qu'il y a 10 sortes de. Il y a 10 voies de prière. C'est l'une d'entre elles. Vayater, c'est une des formes de prière. D'une certaine manière, il s'agit de trouver le langage adéquat pour parler au Père. Pour qu'il fasse ce que je veux. L'une des façons, c'est de prier beaucoup et de supplier beaucoup. Et Rashi dit, Vayater lo. Hachem lui a répondu, Vayetar lo, à lui, lo velola, à lui et pas à elle. On dit, endome tfilat sadik ben sadik, ve tfilat sadik ben racha, le fichar lo velola. C'est quelque chose qui, quand on est jeune, dérange, n'est-ce pas? A priori, on dirait qu'elle a plus de mérite que lui, donc c'est à sa prière, elle aussi elle a prié. Bon, ce serait attendu qu'Hachem, s'il ne répond pas à la prière des deux ensemble, parce que je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi il faut dire qu'Hachem répond à sa prière à lui. Ils prient tous les deux, pourquoi Hachem répond à sa prière à lui? D'où on sait que c'est à sa prière à lui qu'il a répondu d'ailleurs. Parce que le pasouk dit, va y atter l'eau, la medvav. Mais pourquoi c'est marqué l'eau? Pourquoi c'est pas marqué va y atter l'aim? Hachem leur a répondu. Ils sont tous les deux à prier. Et Rachid dit que la prière de du Tzadik Ben Tzadik, elle ne ressemble pas à la prière du Tzadik Ben Racha. Sous-entendu, et c'est de la prière du Tzadik fils de Tzadik, de Yitzhak Ben Abraham, ne ressemble pas à la prière du Tzadik Rivka Abat Betuel. Et du coup, c'est l'explication de pourquoi il lui a répondu à lui. Hachem répond à la tfila du Tzadik Ben Tzadik plutôt qu'à la tfila du Tzadik Ben Racha. Le Gaon explique. Dans Michelet, il explique que Tzadik Ben Tzadik qui donne de la tzedaka. Et la mitzvah chez lui, elle est naturelle en quelque sorte. Depuis toujours, il a vu chez son père on donnait de la tzedaka, et c'est devenu Machenken Tzadik Ben Racha qui donne de la tzedaka parce que il a réussi à s'obliger à donner de la tzedaka. Il avait une nature éventuellement de ne pas donner, il s'est forcé. Le niveau de tzedaka, dans la masse de tzedaka, est inférieur à celui du Tzadik Ben Tzadik. Ici aussi, la tfila est inférieure, parce qu'elle n'a pas l'habitude de prier. Ça veut dire, a priori, pour nous, c'est le contraire, quoi. La tfila, c'est déverser son âme, en quelque sorte. Shichat nefesh. David HaMelech dit, « Vani tfila ». Il dit, je suis tout entier prié. Parce que celui qui prie, il faut prier avec tout son être, en quelque sorte. Et au moment de la prière, on n'est plus que prière. Et ça, c'est seulement possible chez celui chez lequel la tfila est devenue quelque chose de totalement acquis, qui est une partie de lui-même, en fait. C'est pour ça que la tfila d'Yitzhak a été reçue. Chez lui, la tfila était plus une nature. Ce n'était pas la tfila de Rivka qui était une tfila qu'elle devait faire contre cette nature, en fait, contre l'environnement dans lequel elle a baigné, en fait, disons. Mais à l'heure de quel... Un des grands Baalei Moussar, il donne une explication ici, il disait que Tzadik Ben Racha, c'est-à-dire un Baal Tshuva, il ne peut pas s'enorgueillir, parce qu'il sait bien, bon, son père c'était un Racha. Mais Tzadik Ben Tzadik, l'orgueil, est un écueil beaucoup plus facile pour lui, enfin, dans lequel il peut... C'est un obstacle qu'il est difficile de franchir pour lui, parce que son père était déjà tzaddik. Et la tfila, en fait, c'est passer par-dessus son orgueil, c'est s'écraser devant Hachem. Donc s'il est tzaddik ben tzaddik, il a beaucoup plus de travail à faire, en réalité. Parce que son orgueil est beaucoup plus grand. Et donc, arriver à faire plier son orgueil, pour lui, c'est plus difficile que pour elle. On est obligé de dire comme ça, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison, en fait, peu importe qui prie. C'est marqué « Karov Hashem lechol korav ». Hachem est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui prient. Hachem écoute toutes les tfilotes. À condition qu'on soit relâcherik raou behemet. À condition qu'on se tourne vers Hachem en vérité. Donc si même un rachat prie, Hachem écoute sa prière. Sauf qu'il faut qu'il sache qu'il est en vérité un rachat. La tfila du Tzadik Ben Tzadik, pour que sa prière soit vraie, il faut qu'il travaille sur ses midot beaucoup plus que le tzadik ben racha. Parce que la mida pour laquelle on doit travailler pour pouvoir prier, c'est l'orgueil. Tu tiens devant Hachem et en quelque sorte tu es en train d'étaler ton impuissance, quoi. Alors elle est enceinte. Alors on va aller vite, un peu plus fort. Et le pasouk dit Vaitrotsua Banim Bekirba. Elle porte des jumeaux. On parle ici de jumeaux. Et les jumeaux ils bougent beaucoup. Vatomer Imken Lamaze Anochi. Alors. Elle se demande dans ce cas-là pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis enceinte? Pourquoi est-ce que j'accepte en quelque sorte d'être enceinte? Atelak Lidrosh et Hachem. Elle va interroger Hachem. Et Hachem lui répond et il lui dit Shnei Goyim Bevitner. En vérité, il y a deux peuples en toi. C'est-à-dire, il y a deux origines de personnes qui vont être origines de deux peuples. Et deux nations vont sortir de toi et de tes entrailles et diverger. Ou le homme, il est homme, il est mat. Et un sera plus fort que l'autre. Le rav et le grand servira le plus petit. Elle a finalement donc accouché. Et voici, effectivement, elle avait des jumeaux. Alors, toujours Rashi. Sur Vaitrotsua Banim Bekirba, Tomer, Imken Lamaze Anochi, Vatelach Lidrosh Tachem. Rashi dit ici, Vaitrotsu, il rapporte à Botsenu, Darshu, Lachon, Ritsa, il courait. Les deux fœtus, là, en elle, couraient. Ça veut dire que Shaita Overet Alpitre Torah Shel Shem Ve'ever Yaakov Ratz Mufaches Latzet Overet Alpitre Avodazara Esa Mufaches Latzet. Quand il passe devant la Yeshiva Shem Ve'ever, c'est Yaakov qui court et qui veut sortir, et devant un temple idolâtre, c'est Esa. Maral pose une grosse question. Il dit, comment est-ce que c'est possible que Esav, dans le ventre de sa mère, courait quand il passait devant un temple idolâtre? On a une règle, Yetzerara, Nitan le Uba, Rakmet, Shenolat. On sait que le Yetzerara ne vient qu'à la naissance. Vous savez, c'est la fameuse question d'Antonin à Rebbi. Il demandait quand est-ce que le Yetzer il vient, et le Rabbi a dit tout de suite à la conception. Et Antonin lui dit, tu te trompes. S'il avait du Yetzer à la conception, le Oubar il sortirait, il casserait le. Il tuerait littéralement sa mère pour sortir. Non, il sort. Il n'y a que au moment où il naît que le Yetzer arrive. Donc il n'y a pas de Yetzer, donc pourquoi ils savent quoi? Et le Maharal répond que ce pirchus, ce mouvement en quelque sorte, c'est pas l'objet d'une bechira, c'est pas l'yetzara. C'est qu'il y a des trunot, il appelle ça, spirituels, de rishut et de tzidkut. Il y a des penchants naturels qui ne sont pas l'yetzara, tol, l'yetzara. Il y a des choses innées, en fait. Et ça, il est naturellement mauvais. Et c'est ça qui le pousse à la Avodah Zarah. C'est-à-dire qu'on parle de ça, naturellement, il a... C'est... comme s'il y avait un certain magnétisme qui attirait Esav d'un côté et un magnétisme qui attirait Yaakov de l'autre. Chacun voulait sortir, pourquoi il sortait pas? Ni un ni l'autre d'ailleurs.
Non, mais ça, il était en capacité de sortir.
Et Yaakov aussi.
Mais non, il y avait ça devant.
Devant, oui, bon. Oui. Devant, ça dépend comment ils sortent. S'ils sortent, effectivement, par les voies basses, mais Chazal dit, là, Antonin, ce qu'il a dit à Rébi, c'est qu'il aurait défoncé sa mère. Il ne s'est pas né normalement. Il serait césarienne de l'intérieur. Fait éclater le ventre de sa mère. Mais la question que tu poses, oui, alors, pourquoi Esav ne sort pas?
Ce que j'ai lu, c'est que. Parce qu'en fait, il s'est sorti, mais comme il n'a pas d'adversaire à sa taille, il n'a aucune fonction, en fait. C'est qu'avec Jacob qu'il peut exister.
De là à montrer que c'est pas vrai, il n'y a pas d'être ça.
Oui, mais je crois que je me rappelle dans le Midrash. Je ne me rappelle plus de Rav qui est en face, mais il a du mal à lâcher le morceau.
Le Rav Volbeï ramène le nom de son maître, Rabbi Yoham, que ce pirchus, cette tendance à sortir là, c'est une instabilité, le congénital en quelque sorte, qui vient du cœur, c'est-à-dire c'est les une espèce de séduction, procédure de séduction. C'est-à-dire que le cœur, il est séduit même avant que le sechel ait eu le temps de travailler la chose. Comme on voit quelque chose, immédiatement il y a une réaction. On est séduit ou pas, repoussé, etc. Avant même que le sechel il ait eu le temps de travailler la chose, ce qu'il voit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et une fois que le cœur a été séduit, alors le sechel suit le cœur. Acharei le mafrem. Vous allez suivre votre cœur. Donc, des fois, c'est séduction pour le mal, et des fois pour le bien. En fonction de son imagination, de l'imagination de l'être humain en question. Et comparer ça à quelqu'un qui est dans la rue et il passe devant des vitrines qui sont très bien présentées. Et il y a là-bas toutes sortes de couleurs, toutes sortes éventuellement de mouvements, etc., qui séduisent. Et c'est le cœur qui est touché sans que le sechel réagisse là-dedans. Parce que le sechel, en fait, il n'est pas... Lui, il n'est pas impressionné directement par les couleurs, par l'extériorité des choses auxquelles l'œil... Et donc le cœur sont sensibles. et toute la pub, etc., tout ce qu'on voit et qu'on entend, etc. En fait, c'est un principe du mal qui est à l'œuvre dans le monde, en quelque sorte, et qui séduit le cœur. Dans le Beit HaMidrash, quand les gens étudient, tout est sikhli, tout est intellectuel, en fait. Il n'y a pas là-bas, dans le Beit HaMidrash, il n'y a pas de pub. Pourquoi ? Parce que dans cette enceinte, le Sechel n'accepte pas les choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas exactes. Et donc le Yetzer Hara, il est obligé de séduire d'abord le cœur. Là-bas, il y arrivera avec des séductions extérieures. Et on pourrait l'expliquer aussi d'une autre manière. On peut dire que Adam chez Yesh le Ratson la Sot Machou. Un homme qui a une volonté, il veut faire quelque chose. Et cette volonté, elle ne se réalise pas. Cette volonté, elle n'a pas disparu. Elle est enfouie, elle est obligée de se retirer dans l'inconscient, dans le subconscient. Et à l'occasion, si elle a l'occasion, elle fera de nouvelles irruptions. Et c'est ça le problème du Pirchus, de cette tentative de cette sortie. C'est-à-dire, ce Pirchus, il n'annule pas le désir. C'est simplement que ça n'aboutit pas, alors bon, c'est ok, il se retire. Il essaye, ça va pas, mais ça reste. C'est ce qu'on lui dit à elle, Shne Goim Bevitner. Il y a deux peuples en toi. Un peuple tzadik et un racha. Le ra est barou. Le mal, il est clair. On peut le dominer. Mais pas seulement en le poussant de côté, mais en le connaissant, en sachant qu'il est le mal, et qu'il faut lutter contre, et qu'il faut le faire disparaître. Donc c'est le travail. Il faut définir le mal et le faire disparaître. Mais si le bien et le mal ne sont pas clairement définis, c'est simplement que pour une raison ou une autre, on ne fait pas le mal. On a éliminé le mal. En fait. Et si le mal est clair, il ne faut pas désespérer qu'on n'arrivera pas à le vaincre. Le fait qu'on ne puisse pas le vaincre totalement, c'est parce que le monde a été créé comme ça. Le monde a été créé pour qu'il reste du mal tant qu'on en a besoin encore. Teler Lidrosh, elle est allée solliciter, elle est allée interroger, elle est allée au Beit HaMidrash de Shem. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé à Yitzhak ou à Abraham? Elle est allée chez Shem parce qu'il avait un Beit HaMidrash. Il avait un lieu d'étude. Elle allait poser la question dans un lieu d'étude, plutôt que de la poser à quelqu'un qui était très grand et tout ce qu'on veut. C'est Abraham, c'était un géant, mais il n'a pas de lieu d'étude, en quelque sorte. On dirait que ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte que les gens qui sont dans l'étude discutent de la question. Hachem lui répond, donc tu as deux peuples. La question, c'est quand elle lui a répondu ça, en quoi est-ce qu'elle a été apaisée? Elle dit l'amazé anochi, puis après elle va demander, on lui dit ah, t'as deux peuples, très bien. jusqu'à maintenant, elle pensait qu'elle avait un seul enfant, elle ne savait pas si c'était un tzadik ou un rachat. Alors elle est allée interroger. Et maintenant qu'on lui dit qu'elle en a deux, qu'est-ce qui l'apaise ? Elle devrait être encore plus soucieuse. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est un rachat ? Elle va mettre au monde un rachat. Mais il faut dire qu'au début, quand elle pensait qu'il n'y en avait qu'un seul, parce qu'elle a vu ses mouvements désordonnés en quelque sorte, un coup à gauche, un coup à droite, elle a eu peur que ce serait un homme qui, impulsif en fait, qui n'a pas de ligne de, il n'a pas de ligne de conduite. Un jour comme ci, un jour comme ça, ça c'est la pire des choses. Quand on lui a dit qu'il y en a deux, un tzadik et un racha, et qu'ils se battent en elle, bon, ça c'est déjà l'ombre du monde. Qu'il y ait une bataille entre le racha et le tzadik, mais chez un seul homme, qu'aujourd'hui il soit tzadik et demain il racha, c'est la pire des choses. C'est marqué, Vayomer Hachem là, Hachem lui a répondu. Comment elle a eu la réponse? Par Hachem, le fils de Noach. Ça veut dire, Hachem avait voir HaKodesh, et donc c'est lui qui lui a dit a priori. Ça veut dire qu'elle, elle n'avait pas encore voir HaKodesh à ce moment-là avec ça. Par la suite, on va voir qu'elle a voir HaKodesh. On va lui dire ce que Yitzhak a dit à Esav, etc. Tout ça, elle va le savoir par voir HaKodesh. Forme faible de prophétie. Chazal dit sur Shnei Goyim Bevitnech, c'est écrit Goyim, c'est-à-dire ça se lit que orgueilleux. Deux personnages important. Et on rachit rapport, c'est Antonin et Rébi. C'est le prince de Rome et Rébi. Et donc, la Torah dit donc des saves qu'il est game, c'est-à-dire. On voit ici que la Torah, elle ne vient pas du tout considérée comme quantité négligeable, l'égoïme. Mais nier comme tel. Les goyim peuvent aussi devenir très grands, évidemment. Le dernier Torah, c'est de ne pas abaisser les goyim. Au contraire, im yomar lach Adam, yesh chokhma bagoyim, ta'amin. Le Midrash dit que si quelqu'un te dit, il y a la chokhma chez les goyim, tu peux le croire. C'est vrai.
Et juste Rachel, c'est qui dit que. Et ça, c'est Antonin et.
Rachel le ramène, oui. Ramène, peut-être. Rachel le ramène.
C'est où déjà l'échange entre justement Rémi et Antonin? C'est le Midrash
C'est le Midrash, on parle dans Echa. Dans Echa Rabati, mais il y a d'autres endroits aussi.
Et Antonin, il a fait une transformation.
Certains disent que oui, mais peut-être seulement en cachette. Ils ont des goïms qui sont très grands, comme Antonin, etc. Malgré tout, le clan Israël sont infiniment supérieurs. Un jour, Volvo raconte qu'un jour il y a un élève qui est venu, qui dit que ça, il a été ébranlé dans sa émouna, parce que lui, il pensait que un goy, pour beaucoup d'Israéliens, comme ça, ils pensent que Israël fou, ils pensent qu'un goy, c'est un animal, quoi. Quand il... Et un jour, c'était quelqu'un qui s'est occupé de sortir des... de faire sortir des enfants des missions, des couvents dans lesquels les missionnaires les avaient mis. Il y a eu un moment donné où on a beaucoup travaillé, l'émission était très active et il y avait plein d'enfants juifs dans l'émission. Et il y a des groupes activistes qui sont allés, sont allés chercher ces enfants, qui les ont sortis de l'émission. Et un jour, dans son travail, il a dû discuter avec un prêtre. Et ce prêtre l'a très bien reçu. Et tout à coup, il se disait, mais dans ce cas-là, on a besoin de la Torah. Et c'est une erreur de s'imaginer que le goy ne vaut rien du tout et qu'automatiquement on est supérieur, quoi qu'on fasse. C'est les... Je me rappelle que quand les Russes ont envoyé le premier Spoutnik, Volbey a dit que les Juifs ils devaient faire quelque chose d'équivalent. Ils devaient avoir un projet équivalent, qui mobilise tout le monde. Après, il a dit la même chose sur les fusées américaines. Il dit, on voit très bien que tous les gens sont mobilisés, quasiment tout un pays se mobilise pour quelque chose. Les Juifs devraient se mobiliser pour un grand projet, en fait. Pas laisser cette puissance d'organisation et de mobilisation, etc., uniquement de leur côté à eux. Il y a eu des très grandes choses, mais... C'est marqué où le homme mit le homme yéhematz. C'est-à-dire que un peuple ou une nation dominera l'autre. Chazal dit ils ne sont jamais tous les deux, Antonin et Révi, Rome et enfin, Césarée, Yonchala, ils ne sont jamais tous les deux en haut ou tous les deux en bas. Jézé kam zénophè. C'est comme. S'il y en a un qui est en haut, l'autre est en bas. Chazal disent, l'onit malatsu et la michurbana chez Yerushalayim. Tyr, en Liban, n'est devenue importante que quand Yerushalayim a été détruite. On a une règle générale que les parchiotes qui parlent des Avot sont des parchiotes qui décrivent des situations qui vont se dérouler par la suite dans le futur. Ici dans ce passouk, il y a toute la racine de l'histoire du monde. On ne voit pas ici l'histoire du monde comme une lutte des classes ou l'idéologie, etc. On apprend que dans l'histoire, il y a cette lutte entre le clan Israël et l'égoïme, entre Jacob et Esav. Il n'y a pas de milchama entre Esav et Esav. Parce qu'Esav aussi, il est multiple. En vérité, il s'aime. Leurs luttes sont des occasions dans lesquelles les Bnei Israël vont souffrir. sorte de conflit, on voit bien aujourd'hui, une sorte de conflit, le conflit qui empêche les gens de vivre, c'est le conflit entre où Israël est une des parties. Non, ou bien ils se rallieront. Oui, non, mais à ce moment-là, ils ne seront plus... Ça, c'est dans la période de l'histoire. Mais à la fin de l'histoire, c'est plus comme ça. Donc, voilà, finalement, Inès. Vaïtsea Rishon Admoni Kuloka Deretsea Vaïkrushmo Esav. Le premier qui sortit, il est rougeau et il est couvert de poils. Il est, on l'appelle Esav, ça se lit Asso. Il est fait. Il est complètement fait. Il est archi fait. ואחרי כן יצא אחיו וידו חזד בעקב עשיו. Ensuite son frère vient et sa main tient le talon d'Esav. Et ויקרא שמו יעקב. On l'a nommé talon, Achille ou autre, mais enfin Yaakov. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. Et Yitzhak a 60 ans, ils sont nés. Ça veut dire qu'ils étaient mariés 20 ans avant la naissance. Alors, si on pense que les Kiddushin ont lieu qu'elle avait 3 ans, alors elle a accouché à 23 ans. Quand même attendu 20 ans avant un enfant. Certains disent que la raison pour laquelle Rivka est d'abord stérile au départ, c'est parce qu'on ne voulait pas que la naissance apparaisse comme un produit de la bracha de Lavan. Lavan, quand Rivka est parti, il lui a dit à Hotenu, At Aï l'Alfe Revava. Il lui a dit en araméen, notre sœur, que tu sois des milliers de myriades. J'ai une bracha de. Il a eu un enfant très vite, on aurait dit, ah, ça c'est la bracha de son frère. Et du coup, il faut qu'elle soit stérile et que la naissance soit miraculeuse. On voit qu'elle n'a rien à voir avec la bracha de son frère. Et j'ai déjà dit que j'ai vu un pshat dans Tam Sofer qui dit que une explication sur le pourquoi Sarah a ri quand les anges lui ont annoncé la naissance, il dit que Sarah elle a ri pour dire ah, c'est rien du tout ce que tu racontes. Pourquoi ? Parce qu'elle avait peur. Quelque part, elle pensait, j'aurai un enfant. Comment ? J'en sais rien, mais j'aurai un enfant d'Abraham, puisqu'Hachem a dit à Abraham qu'il y aura un enfant. Donc, j'aurai un enfant. Et si la bracha de cet arabe-là, parce qu'elle le prend pour un arabe, si la bracha, elle n'a pas voulu écouter la bracha de cet arabe pour qu'on ne puisse pas imaginer que la bracha de cet arabe aura un impact, et que si on veut qu'elle n'ait pas un impact, ben il faudra qu'elle n'ait pas d'enfant à la suite de ce qu'il a dit. Donc ça repousse encore plus le moment où elle pourra avoir un enfant. Donc c'est pour ça qu'elle a dit, non, c'est rien ta bracha, c'est rien du tout, c'est des blagues. C'est-à-dire, il n'y a pas de bracha. Comme ça, je pourrais avoir un enfant tout de suite, sans que ça pose problème, sans qu'on dise que c'est venu à la bracha. J'y crois pas, cette bracha, c'est rien. C'est une façon d'expliquer pourquoi elle a ri, au sens de elle a voulu annuler cette bracha. Vaïk de loa néharim, les enfants ont grandi. Alors là, on a l'impression vaïk de loup ensemble, néharim. C'est ça la raison pour laquelle Hirsch, il dit que Yitzhak Avinu a fait une grosse erreur. Il a élevé les deux de la même manière. Il a éduqué les deux enfants de la même manière alors qu'ils étaient complètement différents. Vaïk de loup à néharim, c'est-à-dire, ils sont ensemble, ils deviennent grands. Sur le même modèle. Il n'a pas tenu compte de ce qu'ils étaient radicalement différents et qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de la même éducation. C'est Hirsch. Alors, Esav, qui est un homme fait, il est devenu un chasseur, un homme du champ, du terrain. Et Yaakov était un Ishtam. Un homme entier, Yoshev O'Alim, qui réside dans les tentes. Et je crois que c'est la première fois qu'on utilise ce. Vayehav Yitzhak et Esav. Yitzhak aimait Esav, qui tsaïd befiv. Rivka ohevet et Yaakov. Rivka aimait Yaakov. C'est un peu compliqué. Yitzhak, il aime Esav pour une raison qui est dite ici. Tsaïd befiv. Littéralement, ça peut se lire. Il aime Esav parce que Esav lui fournit sans arrêt du gibier. Vous voyez le patriarche Yitzhak, grand consommateur de gibier, grand amateur. Et il aime en plus, il aime son fils. Pourquoi ? Parce qu'il amène du gibier. C'est très élevé, ça. Ça fait plaisir d'avoir un patriarche comme ça, c'est vraiment gratifiant. Je veux dire, on est fier quand on lit ça, si on le lit comme ça, c'est vraiment fier. Alors, Rivka, c'est mieux, elle aime Yaakov inconditionnellement. Alors évidemment, Kitsaïd Befiv, c'est lisible comme ça. Vous n'imaginez quand même pas que Yitzhak Avinu, il aimait. Et c'est deux choses, d'abord qu'il aime le gibier à ce point-là et qu'il aime son fils seulement parce qu'il est fournisseur de gibier, je veux dire. C'est incroyable, hein. Alors Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Yodéat Saïd, c'est un excellent chasseur. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit la tsoud ou le ramot est aviv, befiv. Il savait chasser et tromper. Il piégeait, c'est un chasseur qui s'est piégé. Il piégeait son père, Befiv, avec sa bouche. C'est-à-dire, Shoalo, il interrogeait son père, Abba, Erma Asrin et Amelach, et à Teven, comment prend Maaser, la dîme, sur le sel, sur la paille, sur le foin, et qu'à savour, Aviv, Shoumdagdag be mitzvot. Et son père pensait que c'était quelqu'un qui faisait très attention aux mitzvot. Le rabbi, il disait, je ne comprends pas, hein, pourquoi Esav pose justement des questions sur les choses qui ne sont pas tour de main à serre. Pourquoi il n'a pas demandé sur les questions, sur des choses qui sont... Préalable Maaser, demander comment on prend Maaser, des fois c'est pas évident. Est-ce que par exemple sur un jus de fruits, est-ce qu'il faut prendre Maaser sur les fruits avant de les presser? Est-ce qu'on peut prendre Maaser sur le fruit déjà pressé, alors qu'il a un statut d'eau? Parce que les jus de fruits c'est de l'eau. Alors c'est sur l'eau on prend pas Maaser. Est-ce qu'il faut prendre en fait Maaser sur le fruit, mais le fruit il n'a pas encore atteint son tachlit, si c'est les oranges à jus par exemple. Alors l'orange, si vous la Si vous prenez maaser sur l'orange en tant qu'orange, vous n'avez pas pris maaser sur le produit fini. Or, le chiyuvim de maaser, ils sont quand on a fini le produit. On a fini, c'est marqué quand on a, par exemple, on a récolté, on a lissé le tas de blé, voilà, c'est considéré que voilà, on a fini l'opération. Maintenant, quand le jus de fruits, son opération, elle est terminée quand on a pressé. Et quand on a pressé, on a de la flotte. Anarchiquement, c'est un fichier à colle. C'est pas beau et priorité. Donc, il y a des gens qui, à cause de ça, ils boivent pas de jus de fruits en Israël. Ils savent pas comment faut prendre un serre. Ou alors, ils boivent du jus de fruits, de genre orange de Floride, quoi. Mais avec les oranges d'Israël, ils savent pas comment prendre un serre. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Comment prendre main à serre? Il aurait pu poser ce genre de questions. D'abord, s'il avait posé la question, on aurait peut-être eu la réponse de Jacob Avinu. Non, on l'a pas. Pourquoi il est allé poser ce genre de questions? Impossible. Le Gourarié, il explique longuement pour quelle raison est-ce que ces choses-là pourraient être ayave main à serre. C'est-à-dire, la lecture simple de Rashi. Si on prend Rashi au sens où c'est tout entier de tromperie la question, mais que c'est une question débile. J'ai jamais compris comment on peut s'imaginer qu'un bonhomme comme Esav, qui est un géant, dont la tête est dans Maharat HaMarpella, ça veut dire sa tête, elle est parfaite. Et il parle à Yitzhak, qui est un géant aussi. Et il va lui poser une question débile. Et il sera qu'il va se faire avoir avec un truc pareil. C'est pas ça que Rashi dit. Rashi dit, il trompe son père parce que son père croit qu'il est médakdek be mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des raisons pour expliquer pourquoi on pourrait penser qu'il faut prendre maaser du sel. Il faut prendre maaser de la paille, par exemple. Ce qui protège, ce qui permet la conservation, on peut aussi penser, il faut en prendre maaser aussi, aussi prendre la dîme sur quelque chose d'aussi important que le sel, qui est la condition sine qua non de la conservation de... Il n'y a pas de frigo à ce moment-là. La conservation, c'est le sel. C'est d'ailleurs une marchandise qui joue le rôle de la monnaie, le sel. Donc, si vous voulez, c'est fondamental et ça joue un rôle tellement important que c'est sûr que si on est... Ça vient vraiment, c'est un dédouk dans les mitzvot de se dire, mais dans le sechel, je ne comprends pas pourquoi on ne prendrait pas maaser. Et la paille aussi, la paille est absolument nécessaire pour tenir l'épi, pour lui permettre d'attraper le soleil, etc. C'est fondamental. Et puis ensuite, ça protège. Pas seulement de la paille, on parle de toute la partie hors du grain qui sert de protection et tout. Là aussi, d'ailleurs, par exemple, dans les halakhot de Touma et de Tahara, on s'occupe, on a vu là, qu'est-ce qui est chomer le prix. D'accord? Qu'éventuellement, ça aussi, ça peut être le kabel Touma et qu'éventuellement, et qu'il faut faire une bracha, si c'est consommable aussi et tout. On a vu. Et donc, il ne faut pas penser que Esav pose une question débile. Et il trompe son père avec une question débile. Il pose une question formidable, en fait, qui montre vraiment une recherche dans la mitzvah de Maaser. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui est pas bien là-dedans? C'est qu'il fait comme s'il était medakdek be mitzvot, alors qu'il se conduit mal par ailleurs. Mais au niveau de la tête, des sables, c'est le génie, en état pur. Il ne faut pas s'imaginer Esav comme un triple imbécile. Il ne serait même pas un rachat s'il était un triple imbécile, quand il était négligeable. Vous comprenez, il ne faut pas se laisser aller à une lecture de Rashi, comme les gens lisent ce Rashi-là, comme si c'est un pauvre type, quoi. Bête. Et au contraire, il pose des super questions.
Il y a quoi, il posait quoi comme chiotte?
On ne nous dit pas quelle question il posait, semble-t-il, et possible que peut-être que ça ne frappait pas Yitzhak, la question de Yaakov, parce que Yaakov c'est un bonhomme qui était en train de l'ernen, qui pose des questions quand on est dans le l'ernen, c'est normal. Et quelqu'un qui est sur le terrain, etc., qui vient poser les questions, ça veut, c'est comme si au fond, même quand il est sur le terrain en train de jouer son rôle sur le coin, comme si à ce moment-là aussi il est sans arrêt en train de penser, maaser, etc. C'est la Gemara de Brachot. Anek Baem Minak Derech Eretz. Tu es chasseur, tu fais du travail dans les champs, etc. Ok? Mais tout ça, tu le fais en pensant, en étant plongé dans la Torah. Voilà. C'est ça que Esav montrait à Yitzhak. Et Yitzhak, il le croyait, parce que j'imagine qu'il avait des arguments, Esav, quand il parlait. Il l'a trompé parce qu'il donnait à comprendre, il faisait croire qu'il était à ce niveau-là. Il ne l'était pas. Vous comprenez? C'est pas du tout. Il faut arrêter de s'imaginer que c'était un débile mental. Ou le traiter comme tel. La plupart des gens, ils s'imaginent qu'ils posent une question. Ouais, question de mincer. Mais moi, je sais qu'il ne faut pas prendre mincer du sel. Lui, il sait même pas. Il faut quand même pas se moquer du monde. La Torah ne viendrait pas nous raconter une chose pareille. Et Yitzhak ne va pas se faire piéger comme ça. C'était pas le dernier des derniers, Yitzhak Avinu. Vous ne pouvez pas lui raconter des questions idiotes. Il n'allait pas être impressionné par ça. Et Esav non plus, il ne va pas poser ce genre de questions. Donc la question, il faut l'entendre comme une question de première importance. Une question difficile. C'est pour ça que le Maharal, Gouarié, il traite ce problème. Il traite le pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre Maaser et pourquoi on ne prend pas. Voilà, on s'arrête là. Voilà.